Je vais commencer par dire qu'est-ce que la bioéconomie. Bon, pour les dans le monde anglo-saxon, c'est assez évident parce que il doit y avoir à l'heure où on se parle 100 articles qui sont publiés sur bioéconomie sur toutes les enjeux de la, parce que finalement, c'est le nouveau terme de l'innovation. En France, pour des raisons que sur lesquelles j'ai un peu réfléchi mais que je m'explique mal, c'est moins connu. Ben, la bioéconomie, finalement, c'est dans ce cadre-là même qu'on peut replacer ben, toute l'économie de l'innovation qu'on a vu, les nanos, parce qu'une grande, grande partie de la nano, maintenant, c'est en nanomédecine. La bioéconomie, c'est d'abord, je parlais du top-down tout à l'heure, c'est un programme de l'OCDE, mis en place en 2009, qui est vraiment, bon, la bioéconomie Horizon 2030, qui va repenser l'ensemble du mode de développement économique en fonction justement de l'idée d'un développement durable et qui va prendre le vivant dans son ensemble, comme nouvelle forme de croissance et de possibilités de développement, en prenant en compte le développement durable. Et donc, c'est le vivant dans son ensemble. La bioéconomie, c'est un projet global qui, 2009, l'OCDE, 2012, le gouvernement américain qui met en place une immense infrastructure de développement. La bioéconomie, ça devient synonyme de développement économique. En France, les Européens, mais ce qui est fascinant, c'est que le terme de bioéconomie lui-même, et là, c'est qu'on voit comment... Donc, finalement, sachez que c'est ça, la bioéconomie, si vous avez jamais entendu parler, c'est un programme de l'OCDE qui est devenu, qui a été repris par l'ensemble des États, le gouvernement américain 2012, et puis suivi par l'Europe. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que le terme de bioéconomie lui-même est indissociable de l'idée de développement durable et des enjeux, je dirais, macro-sociologiques, écologiques qui sont devant nous. Et l'origine du terme, c'est pour ça qu'en Europe, par exemple, la réception est paradoxale, parce que l'origine du terme bioéconomie, c'est Nicolas Georgescu-Rogan qui est le premier théoricien de la décroissance. Hein, qui lui, finalement, et là, on va entrer un petit peu dans l'épistémologie, mais je n'aurai pas le temps d'approfondir, mais à mon sens, c'est l'infrastructure métaphysique du monde contemporain, c'est la thermodynamique. La première thermodynamique, comme Alain disait, hein, c'est la base de la thermo-industrie. Et la seconde thermodynamique, qui est celle de la théorie de l'information, qui est celle de la cybernétique. Et ici, ce qui est fascinant, c'est que Georgescu-Rogan, lui, ce qu'il dit, c'est que finalement, la métaphysique du monde moderne, parce que c'est pas la physique newtonienne qui est le modèle, c'est vraiment la physique à partir de cette époque-là, ça va être la thermodynamique. C'est l'entropie, hein, c'est l'entropie. Puis finalement, ce que Georgescu-Rogan dit, mais comment se fait-il qu'une théorie qui montre très très clairement la linéarité, la finalité de la Terre, mais du monde physique, a donné lieu à un modèle de croissance illimitée? Hein, c'est la révolution industrielle. Et donc, lui, ce qu'il va dire, toute la théorie de la bioéconomie qui apparaît dans les années 70, hein, donc Georgescu-Rogan, ses travaux, c'est fin des années 60, début des années 70, va mettre en place toute une théorie économique, de bioéconomie, qui, justement, prend au sérieux la question de l'entropie et dit, ben, on va développer un mode de production qui tient compte des limites de la planète, hein, pour justement limiter l'effet de l'entropie. Et là, ce qui est fascinant, c'est que la bioéconomie de l'OCDE, je vous annonce que ce n'est pas du tout un projet de décroissance. C'est vraiment plutôt comment on va détourner le concept de bioéconomie dans l'idée justement que la croissance va passer par l'économie. Puis c'est où est le tour de passe-passe épistémologique? C'est qu'entre la thermodynamique du 19e siècle et la thermodynamique de la théorie de l'information qui va être en physique, repenser en termes probabilistes, le vivant, penser en termes moléculaires, donc là, c'est Schrödinger, c'est des fondements de la biologie moléculaire, le vivant est pensé comme un processus négentropique. Et là, je vous envoie à Henri Atlan, à toute l'histoire de la biologie moléculaire, et donc le processus négentropique du vivant va être interprété justement comme si on peut prendre les mécanismes vivants, ça nous permet de combattre l'entropie, ça nous permet de maintenir la croissance. D'où le fait que l'OCDE nous arrive en 2009 avec un projet de bioéconomie dont l'origine, c'est le développement durable, mais repensé en termes, justement, de cybernétique, hein, d'une théorie de l'information qui va penser le développement comme un processus, le vivant comme un processus néanthropique. C'est hystériquement situé. Hein, donc, la bioéconomie commence à être pensée à la fois par Georgescu Regan, mais aussi par, ça apparaît dans l'histoire, même si ça nous arrive en 2009 le terme, ça apparaît plus. C'est vraiment à la fois, il y a deux choses, puis pour ce qui m'intéresse moi, il y en a une fondamentale, les années 1970, donc le Club de Rome en 72 qui pour la première fois dit ben il va avoir l'épuisement de l'énergie fossile, la crise de l'énergie fossile, le début de la conscience écologique, c'est-à-dire les limites du développement, et en même temps l'abandon de l'étalon or. L'abandon de l'étalon or pour ce qui est de la bioéconomie du corps humain, j'ai pas le temps d'approfondir, c'est fondamental parce que, et là, on est dans un imaginaire du temps long, et je m'étais appuyée sur les travaux de Clarice Sherrin-Smith, qui est une antiquiste, et qui montrait que la naissance de la monnaie frappée en Ionie, en moins qu'il y ait à l'État ionien, c'était lié au culte d'Artémis. Et que finalement, petit à petit, les sacrifices des femmes hein, pour protéger la fertilité, les grossesses, petit à petit, c'était transformé en bulles d'électrons, bon, des décomposés, et était devenu petit à petit une monnaie frappée. Et donc, il y a un lien entre le sacrifice corporel, l'imaginaire de et la monnaie frappée, et d'où le maintien. Évidemment, en 1971, quand on laisse tomber l'étalon or, on n'est pas dans la mystique du corps féminin, mais il y a un lien imaginaire entre le corps, le vivant et le métal précieux. Puis une fois qu'on abandonne le métal précieux en 71, on entre dans l'économie du vivant. On entre dans l'économie informationnelle, dans, évidemment, une économie qui n'a plus d'équivalent matériel. Pour moi, c'est fondamental. Je vais y revenir sur la question des cellules souches. Donc, ce contexte-là fait en sorte que, à la fois le Club de Rome, à la fois la redéfinition de l'économie en termes des limites, mais réinterprétée sur la thermodynamique, le fait que si on peut manipuler les processus vivants, ben on va chercher une autre forme de productivité qui, elle, est potentiellement sans limite parce que le vivant, depuis Henri Atlan, depuis Progrogine, est pensé comme un processus néanthropique. Et donc, ça, c'est vraiment important. Ça correspond historiquement parce que c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd, un peu comme les nanos. Drexler, il aurait eu beau parler, s'il n'y avait pas eu Clinton pour l'écouter, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Donc, c'est la même chose qui est arrivée, c'est-à-dire que l'État américain a pris au sérieux la question du Club de Rome. Évidemment, la crise du pétrole, ils l'ont pris au sérieux, il n'y avait pas le choix. L'abandon de l'État noir est lié à des logiques. Et donc, tout ça en même temps a fait en sorte qu'à cette époque, de façon massive, le gouvernement américain a investi dans les technologies d'information et dans les biotechnologies, à commencer par l'agriculture industrielle, qui va nous donner les OGM, qui vont nous donner. Et donc, ça, c'est le contexte, à mon sens, quand on parle d'innovation, qui est le contexte contemporain. Parce qu'ensuite, ce modèle-là est très, très tôt. Donc, on est à la fin des années 70, on investit dans la bioéconomie. Très, très tôt, on va arriver à l'incarnation imaginaire de ce nouveau régime à travers deux lois. La première, c'est le Bedell Act, hein, qui va permettre... il y a un changement profond, c'est plus la Big Science. Hein, le Bedell Act, c'est vraiment l'idée que l'économie du savoir est mise en place et que finalement, les chercheurs américains, à partir des fonds publics, vont pouvoir breveter. Et donc, il y a toute une logique d'innovation qui va faire des universités le moteur de l'économie. Et la deuxième loi, en 1980 aussi, c'est l'accord Sharkey qui va permettre le brevetage d'une bactérie. Encore là, c'est pas anodin. Qu'est-ce qu'elle faisait, la bactérie? Elle dissout le pétrole. C'est une bactérie qui a été manipulée pour dissoudre le pétrole. Donc, on est vraiment pas juste dans l'imaginaire, mais aussi ce qui va faire que ce vivant-là va devenir une propriété privée. Donc, c'est le contexte dans lequel j'essaie de recentrer les choses. Je vous ai raconté. Je vais essayer d'aller un peu... Donc, qu'est-ce qu'il y a que la bioéconomie? Bon, Il faut comprendre que la bioéconomie, ça comprend les nanos, ça comprend les biotechnologies, ça comprend évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'agriculture, la biologie synthétique, c'est le modèle de développement. Et ça touche l'ensemble de la production, c'est-à-dire évidemment l'agroalimentaire. Hein, le modèle le plus clair, c'est les OGM et tout ce qu'on développe. Ensuite, l'industriel, donc une partie des nanos, la biologie de synthèse, donc tout ce qui est le produit industriel en tant que tel. Puis la question, évidemment, qui la grande industrie de notre époque, c'est-à-dire le biomédical. Les trois sont importants à saisir dans leur complémentarité, mais dans mes travaux, dans mon intérêt, je me suis intéressée surtout à la question de la bioéconomie du corps humain. Donc, dans la bioéconomie du corps humain, évidemment, c'est encore là, les racines sont beaucoup plus. L'usage du corps dans la médecine, c'est vieux depuis comme autant que la médecine. Mais ce qui m'intéressait, c'est comment justement le sang, les organes, les cellules, les tissus, les gamètes, les embryons, comment ils étaient pensés et transformés maintenant en plus-value. Hein, non seulement parce qu'ils sont aussi de recherche, mais parce qu'on va les utiliser et que finalement, ces objets biologiques, de par leur vitalité, hein, permettent hein, un développement technologique, donnent une plus-value et c'est la source à partir duquel on va capitaliser. Et ça, ça met en place tout un marché mondial. Je vais en reparler tout à l'heure, mais ce qui est fascinant, par exemple, parce que je suis trop proche de la bioéconomie et je n'ai pas le temps de vous le dire, mais on parle d'imaginaire, mais il y a aussi des imaginaires qui cachent les réalités historiques. Dans le cas, par exemple, de la bioéconomie, du corps humain, le modèle idéal typique, ça a été les technologies de reproduction in vitro. Et ce qui est très, très peu connu du grand public, pourtant, on en parle à tous les jours. Hein, cette semaine, c'était les Chinois qui vont nous sélectionner le gène d'intelligence, une sélection pré-embryonnaire du gène de l'intelligence. Donc, en technologie in vitro, ça a donné lieu à toute une transformation complète de la compréhension même. Et ce qui est fascinant, c'est l'origine de la technologie in vitro, qui est vraiment le premier modèle de la bioéconomie agro-industrielle, on l'oublie, c'est l'élevage industriel. Ce sont des techniques qui ont été développées chez les bovins et qui, très, très rapidement, en moins de 20 ans, ont été expérimentés sur le corps des femmes, mais là, dans l'imaginaire de l'enfant, dans la volonté du désir de l'enfant. Et ce sont les mêmes techniques, avec les mêmes logiques d'industrialisation, parce que la stimulation ovarienne qui a fait en sorte qu'on a transformé le corps des femmes en usine à produire des ovules, on a soutiré ces ovules-là, puis on est arrivé avec des embryons surnuméraires, bien c'est parce qu'il y avait un modèle de productivité économique transposé au corps des femmes qu'on n'a jamais pensé comme ça. C'est pas dans cet imaginaire-là qu'on l'a présenté. On a d'ailleurs beaucoup minimisé les effets sur la santé et présenté justement dans cette espèce de miracle de l'enfant en aide, du désir d'enfant. Mais les origines, c'est la bioéconomie. Et bon, je pourrais vous en parler parce qu'aujourd'hui, c'est un peu de ça que je vais vous parler. Donc, c'est le contexte. À mon sens, la bioéconomie, mais je pense que je ne suis pas la seule, c'est vraiment le contexte contemporain du développement des technologies, le cadre qui englobe aussi les nanos, même si les nanos ne sont pas nécessairement bio. Si vous regardez concrètement, si vous allez voir en nanotechnologie, les usages, c'est-à-dire la nanomédecine prend ça, là. Et c'est la même chose en médecine régénératrice, c'est la même chose en biologie de synthèse. C'est une des plus grandes industries dans le monde, pour des raisons évidentes, parce que là, la question de la croissance, c'est la santé. Donc, une des raisons, c'est que, justement, on est dans une économie de la double promesse. La première, celle que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que le vivant est un processus négantropique qui permet justement, qui va fournir une nouvelle forme de plus-value, puis qui est en plus une ressource renouvelable. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, ce qui n'est pas vrai dans le cas des ovules, mais c'est vu comme une ressource renouvelable, le vivant, les cellules et tout ça. Donc ça, c'est la première. Et donc, on arrive, comme je vous l'ai dit, financiarisation. Ça correspond à la finition, l'abandon de l'étalon art, c'est le début de l'économie informationnelle. Donc, une quête incessante de capital à risque, un problème, la logique que Marina nous a très bien expliquée du hype, qui est d'abord le modèle nano, mais qui va devenir le modèle de tous les développements technologiques. Donc, l'idée que c'est d'abord de la promesse qu'on vend. Et donc, ça, c'est vraiment une économie qui est fondée sur l'investissement à court terme, la création de start-up, bon. Et la deuxième promesse dans la bioéconomie du corps humain, qui elle est beaucoup plus profonde, ce qui donne, à mon sens, une puissance imaginaire, mais une puissance aussi économique et politique, à mon sens, inégalée dans l'histoire. Mais ça, on peut en discuter parce que non seulement on est dans la promesse économique, mais on est dans le plus profond d'une promesse d'une santé parfaite. Et là, ici, pour comprendre l'autre ligne, parce que je vous ai dit que l'après-Deuxième Guerre mondiale, pour moi, c'est fondamental. La cybernétique, ça a été la réponse technoscientifique à l'Holocauste. Alors, ça, il y a énormément d'écrits sur comment la cybernétique est une réponse technoscientifique à l'Holocauste, comment finalement la machine intelligente, c'était quand même face à l'horreur de la guerre. Hein, qu'est-ce qui a pu nous emmener là? Ben, finalement. Mais l'autre réponse politique, celle-là, ça a été l'idée de la santé comme fondement de la citoyenneté. Bon, Foucault a travaillé là-dessus très clairement. Hein, l'OMS, qui, en 1946, à la définition de l'OMS de la santé. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Bon, cette définition de l'OMS, il faut toujours la lire en 1946. On est face à Foucault a beaucoup travaillé là-dessus. On est devant nous une hécatombe idéologique et imaginaire. Hein. L'anti-humanisme d'après-guerre est très fort, justement. La force de la cybernétique, c'est de dire ben, l'humain a failli, les promesses ont failli. Finalement, la machine va nous aider parce qu'on n'est pas assez rationnel. Et la seule promesse, ça a été justement de dire ben, finalement, face à cette destruction concrète des corps, hein, finalement, c'est la santé qui va devenir le fondement de la citoyenneté. Et cette définition de l'OMS, quand on la lit en 1946, elle n'est pas problématique. Quand on la lit aujourd'hui, hein, si vous la lisez bien, vous allez voir que personne n'est en santé et que elle est par définition infinie. Un état complet de bien-être physique, psychologique et moral. Il n'y a personne qui est en état complet de bien-être. Et là, c'est toute la société qui va se donner comme fondement cette idée justement d'une vision d'une santé parfaite. Ça implique puis ça correspond aussi. Encore là, on n'en a pas parlé, mais une des grandes révolutions de l'histoire humaine, ben de l'humanité, puis elle dépasse, elle est matérielle, c'est-à-dire le renversement démographique. Le renversement démographique, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où la pyramide des âges est inversée. Et du néolithique jusqu'au 19e siècle, on était pratiquement dans les mêmes... Et là, il y a eu une transformation qui est liée... Donc, il y a un rapport à la mort qui se transforme, un rapport à la santé et... Ce fondement de la santé comme citoyenneté s'inscrit dans la mise en place des systèmes de santé publique, dans les politiques du sang, j'y reviendrai, donc du corps politique après la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on regarde aujourd'hui la place qu'occupe la santé, mais dans le PNB des sociétés, là, c'est incroyable. Aux États-Unis, c'est des montants faramineux parce que la santé, bon, évidemment, aux États-Unis, c'est pas... Elle s'est privatisée, mais c'est quand même ce modèle de la santé qui est prédominant. Et donc, cet horizon collectif d'une santé parfaite, je pourrais en parler des heures, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la période contemporaine est marquée par ce que Nicholas Rose et d'autres sociologues ont parlé, la molécularisation de la culture, c'est-à-dire justement la représentation... l'effet d'une représentation de la science biologique hein, en termes de gènes, en termes où le corps est de plus en plus vu comme quelque chose de malléable et devient l'enjeu d'une citoyenneté. On va voir apparaître, mais très récemment, des groupes de citoyens qui vont revendiquer un accès à la recherche, des groupes de citoyens qui vont revendiquer des recherches sur tel gène, des groupes identitaires. Donc, il y a toute une bioéconomie, des populations entières qui sont en biobanque comme l'Islande, la mise en place de grandes biobanques qui touchent la question des big data, donc ce qu'on appelle une bio-citoyenneté. Évidemment, les imaginaires sont... le mot trompeur n'est pas clair, mais par exemple, l'imaginaire de l'économie du corps depuis la Deuxième Guerre mondiale, il est passé par le sang. Et puis si on voyait la force symbolique que c'est de prendre du sang, puis d'entrer du sang d'un individu à l'autre, c'est vraiment important. Et donc, ça n'a pas rapport à la... Et donc, les politiques du sang vont fonder les politiques nationales. Puis cette idée du don, donc du sang versé pour la nation, au sang va résonner jusqu'en 2011. Hein. Qu'est-ce que les citoyens américains ont fait en 2011? Ils allaient donner du sang. On n'en avait pas besoin. Ils allaient donner du sang parce qu'il y a cet imaginaire très, très fort que finalement, la fraternité passe par le don de sang, qui est une référence directe à la guerre. Mais ce modèle du don domine encore la bioéconomie. Donc, ça va être, évidemment, le don d'organes, je pourrais en parler parce qu'il est aussi fondamental. Mais là, ça va être le don d'ovules, le don de gamètes et toute l'économie du corps qui est une vraie économie, c'est-à-dire qui suppose des logiques d'exploitation, des logiques économiques, est toujours cachée sous cet imaginaire du don. Et donc, ça, c'est vraiment important à comprendre parce que ça amène une confusion entre différentes logiques, une qui est plus de nature sociopolitique et une qui devient de plus en plus capitalisée, mais qui s'interprète dans les mêmes termes. Mais en réalité, c'est pas les mêmes logiques qui sont derrière. Donc, ici, je voulais vous passer, ça, c'est un cadre théorique qui est, à mon sens, le plus intéressant sur ces questions-là, qui s'appelle biomedicalisation. Et c'est Adele Clark aux États-Unis qui a montré justement comment les sociétés modernes sont, les sociétés contemporaines sont marquées par un processus de biomédicalisation. Donc, c'est un concept sociologique pour expliquer justement l'utopie de la santé parfaite. C'est pas juste une utopie, ça s'inscrit dans des rapports sociaux. Le premier, c'est la place grandissante, justement, ce que je vous explique, hein, de la recherche biomédicale dans le développement de la santé, avec justement les logiques de brevetage, de marchandisation, la course techno-scientifique. Donc, c'est le premier processus. Deuxième processus, c'est tout ce qui est justement en termes de conception même de la santé. Si je vous renvoie à la définition de l'OMS, la conception même de la santé va changer parce que de plus en plus la santé, depuis les années 80, est pensée en termes de facteurs de risque. En termes de facteurs de risque, en ce moment, c'est ce qu'on cherche en nanomédecine, peut-être que c'est des choses qui vous échappent, mais on cherche des biomarqueurs génétiques pour essayer d'analyser les facteurs de risque avec une conception complètement différente de l'individu et de la médecine parce que c'est des modèles probabilistes. Et on va de plus en plus développer des modèles diagnostiques, de plus en plus. L'imagerie médicale, c'est ce qui se développe énormément pour essayer de capter, mais presque au début du cancer. Et donc, ça amène aussi des problèmes sociaux. En ce moment, par exemple, au Québec, puis pas juste au Québec, à l'échelle internationale, on se rend compte qu'on diagnostique trop tôt le cancer du sein et qu'il est surtraité. Donc, le diagnostic amène un surtraitement. Mais ce diagnostic-là est lié, ou ce développement extrême d'un corps qui devient de plus en plus transparent parce qu'on essaie de détecter presque avant même la naissance, avant même l'apparition de la maladie, ça fait partie du processus de biomédicalisation où nous sommes tous à risque. Hein, il n'y a personne en santé, tout le monde est à risque et tout le monde doit être surveillé. Un autre processus de la biomédicalisation, donc il faut comprendre ces processus-là, ils sont imbriqués les uns dans les autres. Hein, la logique économique, les logiques de surveillance. Le troisième renvoie au rôle grandissant des technosciences dans l'organisation des systèmes de santé. Hein, donc, tout ce qui est de l'ordre, justement, de l'intégration d'Internet et aussi le processus aussi, et là, qui est directement lié à ce que j'appelle la biosignité, c'est-à-dire que la santé passe par de plus en plus une logique d'imaginaire, de publicité, où on peut et internationaliser. Ce que moi, j'ai beaucoup étudié le tourisme médical, qui est un phénomène de la globalisation et de cette bio-citoyenneté. Et donc, sur Internet, par exemple, Doctorissimo, ou de plus en plus, par exemple, ça pose par rapport à la science, les médecins vont nous dire, les gens viennent à mon cabinet, puis là, ils ont vu sur Internet un médicament qui existe en Inde, puis il me demande le médicament ou les prix. Donc, il y a toute une logique où finalement, le citoyen lui-même devient un revendicateur d'une santé parfaite. Et là, ça transforme le rapport entre la médecine et ça a vraiment des effets d'une bio-citoyenneté. Et le dernier, qui est probablement qui intéresse plus ici, évidemment, Marina y faisait référence. Le troisième processus, donc c'est toute la même logique. Hein? C'est des décompositions d'un concept sociologique pour comprendre un mouvement à l'œuvre. Et donc, le dernier, c'est évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'identité. Hein, la biomédicalisation, c'est que ça transforme l'identité du corps. Un corps qui est de plus en plus vu comme quelque chose d'amélioré, mais quelque chose de plastique aussi. On peut le modifier et le primo imaginaire, c'est quand même les technologies de reproduction, encore une fois, parce que c'est l'idée que non seulement on peut sélectionner, que finalement, on peut aller au-delà de la limite du corps, hein, puisque l'infertilité... Il faudrait voir à quel point ça a été construit, toutes ces choses-là, comment on a construit l'infertilité, les causes de l'infertilité. Donc, ça serait intéressant, mais bon, c'est pas le cas. J'ai pas le temps de faire ça. Et donc, évidemment, puis l'idée, justement, qui va jusqu'au transhumanisme, hein, qui pourrait aller jusqu'au transhumanisme. Mais je voulais vous dire, avant de parler du transhumanisme, beaucoup plus important que ça, nous sommes des sociétés hautement dopées. La biosanté, elle est partout. Je pense au Québec, par exemple, où on a 10 à 20% de nos enfants qui prennent du Ritalin. Hein, donc, l'idée, justement, que la performance scolaire, puis c'est le premier, ça, c'est un bon exemple de biomédicalisation. C'est-à-dire que la biomédicalisation, c'est des problèmes sociaux qui deviennent des enjeux médicaux. Deux médicaments, le Ritalin, le Viagra. Viagra, tout le monde, c'est quoi, même en Afrique, ils savent tous c'est quoi le Viagra. C'est quoi le Viagra? Bien, évidemment, c'est la transformation de la dysfonction érectile liée au vieillissement en une maladie. Là, ça serait complexe, mais ceux qui ont travaillé sur ces questions-là. Et dans le Viagra, il y a tout un imaginaire. L'imaginaire de la puissance, l'imaginaire de la performance, l'imaginaire de la jeunesse éternelle. Donc, c'est l'exemple de la biomédicalisation. Le Viagra, c'est pas petit, là. C'est des énormes marchés. Et le Ritalin, qui, à mon sens, est encore plus problématique parce que, là, c'est sur les enfants. Donc, c'est vraiment lié à la performance scolaire parce que le fonctionnement de la prescription et aux États-Unis et au Canada, c'est vraiment la demande vient du milieu scolaire. Donc, on va médicaliser l'enfant parce que le professeur ou la professeure ou les parents trouvent que l'enfant correspond au TDAH. Puis là, il y a toute une sociologie extrêmement pointue sur les développements diagnostiques et comment. Mais ça fait partie, donc évidemment, ça transforme l'identité. Donc, ce qui m'intéresse sur cette économie de la double promesse, comme redéploiement d'une possibilité d'une croissance qui serait soi-disant développement durable, parce que le développement durable est pensé vraiment dans la bioéconomie. Et donc, cette double promesse d'une santé parfaite, puis évidemment, ce que je vous ai dit, qui est un fait majeur de l'histoire humaine, les transformations démographiques qui font en sorte que finalement, on est dans des sociétés qui vieillissent. Hein, et en 94, la Banque mondiale publie un rapport qui s'appelle « Averting the Old Age Crisis, Policies to Protect the Old and Promote Growth ». Donc, dans lequel, justement, déjà, on voit apparaître, la Banque mondiale voit le vieillissement des populations comme un phénomène de décroissance économique. Puis là, on ne se dit pas, faudrait réaménager les sociétés, repenser la société. On se dit, on va investir dans le vieillissement. Puis d'ailleurs, j'entendais quelqu'un hier qui me parlait de anti-aging medicine. Si vous regardez les derniers prix Nobel en biologie, vous allez voir qu'ils sont tous obsédés par le téléoremas, c'est-à-dire toutes les composantes génétiques, ben c'est-à-dire la structure même de reproduction cellulaire, l'apoptose. Là, on est dans l'idée même de combattre le vieillissement comme phénomène. Et donc, ce que fait la Banque mondiale, la même chose qu'elle investit massivement en médecine régénératrice, en nanomédecine, c'est ce que pour combattre le vieillissement. Donc, la réponse, elle va venir de cet imaginaire en disant, ben finalement, on va pouvoir combattre le vieillissement et on va apparaître. Donc, ce rapport de la Banque mondiale, c'est pour ça que c'est toujours du top-down. Hein, les imaginaires scientifiques, pour qu'il existe, il faut qu'ils rencontrent, ils sont souvent nourris par ces... En tout cas, de ce qu'on voit, c'est quand même la Banque mondiale qui est en premier, l'OCDE qui est en premier. Donc, pour moi, c'est assez clair. Donc, là, on va se mettre en place ce qui, moi, m'intéressait beaucoup. Ben, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est encore au cœur de mes travaux. L'idée, justement, d'un projet scientifique et politique de combattre le vieillissement, d'atteindre une espèce de société parfaite. Dans mon livre, La société post-mortelle, c'est vraiment toute la question de la mortalité qui est à l'œuvre et qui va donner lieu à pour moi, il y a deux grandes branches quand même. Il y en a plusieurs, mais il y a deux grandes branches, c'est nanomédecine, médecine régénératrice, et qui va nourrir justement cette économie de la double promesse. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette économie de la double promesse, elle est hautement spéculative. Le modèle idéal typique, le premier, parce qu'après, il y en a eu plein, c'est Geron aux États-Unis. D'ailleurs, le nom, hein, Geron, c'est assez clair. Donc, qui vont... c'est une start-up qui va... Qui a pour mission, justement, de travailler sur les mécanismes cellulaires, les mécanismes génétiques du vieillissement, à travers notamment la recherche sur les cellules souches, pour essayer de voir comment on peut combattre le vieillissement en tant que tel. Et donc, évidemment, là, je vous passe sur... je vais quand même le dire, parce que moi, mes travaux s'intéressent à des choses, des vieilles choses de sociologie qui s'appellent les inégalités sociales, qui s'appellent les rapports de domination. Et donc, quand on rentre dans ces logiques-là, on voit à l'œuvre toute une nouvelle économie, mais toute une nouvelle exploitation des corps, puis toute une nouvelle inégalité sociale, parce que je vous annonce que ces recherches-là ne seront pas des recherches qui s'adressent aux masses. Et donc, se met en place dans les années 90 toute cette économie liée à la lutte contre le vieillissement. En France, c'est le plan Alzheimer. L'Alzheimer qui est présenté comme le mal du siècle. Ici, je ne parle jamais de la souffrance humaine des malades en tant que telle, qui sont toujours des alibis d'ailleurs. Hein, ça, c'est... Mais je parle du mécanisme qui fait que pourquoi l'Alzheimer serait plus dramatique qu'une autre maladie, c'est parce qu'on est dans cette idée de la vieillesse comme phénomène de décroissance, comme phénomène de dégénérescence. Et donc, c'est ça un peu comme, par exemple, dans le transhumanisme, si vous regardez, le leitmotiv qu'on voit toujours dans ces imaginaires-là, c'est qu'on va rendre la vue aux aveugles, l'handicapé qu'on va pouvoir aider, mais en réalité, derrière, c'est tout c'est l'imaginaire qu'on utilise. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est comment, justement, cet imaginaire-là donne lieu à une nouvelle économie des corps. Et donc, en 98, Thomson, qui va réussir à produire les premières lignées de cellules souches embryonnaires, donc isolées. Et là, encore là, au niveau scientifique, là, c'est zéro. Hein, le fait que qu'un embryon puisse se décomposer et devenir un corps, c'est quand même de l'ordre de l'évidence biologique depuis un petit bout. La prouesse, elle est dans la capacité d'isoler ces cellules-là. Hein, puis de pouvoir les réutiliser, les transformer. Et là, il y a vraiment tout un imaginaire du corps aussi, parce que là, c'est l'idée d'un corps qui va se régénérer à même les sources, les débuts du vivant. Puis évidemment, les embryons, ils ont un imaginaire fort. Puis c'est fascinant. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est que, par exemple, tous les États ont légiféré. En Europe, maintenant, c'est fait. L'année dernière, on a permis en France de le faire. Peu importe que ce soit, à mon sens, ça va toujours aller vers la permission parce que c'est l'économie qui prime. Mais l'idée, c'est qu'on s'est questionné, est-ce que c'est un être humain, pas un être humain, catholique, pas catholique, des pays en Inde où ils sont. C'est même pas une question. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on s'est jamais questionné sur la provenance de ces embryons-là. On est dans l'Immaculée Conception, là. On est dans l'idée des embryons comment ils sont apparus. Bien, ils sont apparus parce qu'on est allé chercher, comme dans une mine, les cellules, les ovules dans le corps des femmes. Hein, et qu'il y a un marché énorme de l'ovule dans le monde. Et toute une géopolitique, c'est de là qu'ils viennent, les embryons. Et donc, la question ne s'est jamais posée sur l'origine de ces... L'imaginaire est plus fort que les réalités. Donc ici, bon, évidemment, je vous renvoie, c'est pas une métaphore de ma part, je vous renvoie à l'abandon de l'étalon or en 70, et puis l'entrée de la bioéconomie, l'entrée des États-Unis dans la bioéconomie, mais dans aussi le paradigme informationnel, l'économie financière, et les chercheurs eux-mêmes parlent toujours des cellules souches embryonnaires comme l'étalon or de la bioéconomie. Hein, donc, c'est une espèce de... Là, c'est plus la matérialité, mais là, on est dans le corps pour de vrai, hein? On est dans... Même si c'est au niveau scientifique. Et donc, on est tout dans un imaginaire qui nous renvoie justement à l'or, à la matière, à une espèce de toute-puissance qui est vraiment importante. Pour revenir sur les embryons, c'est vraiment une géopolitique immense. Et en ce moment, ils nous viennent surtout d'Inde. Et si on regarde pourquoi ils nous viennent d'Inde, c'est évidemment des raisons socio-économiques très claires, des raisons qui viennent s'ancrer dans des archaïsmes, c'est-à-dire la condition des femmes en Inde, l'importance d'avoir un enfant mâle, mais aussi parce que finalement, le statut de l'embryon, ben, il n'y en a pas là-bas. Donc, il n'y a pas les questions qu'on va se poser ici. Donc, là, ici, on est les imaginaires qui viennent nourrir des logiques de domination. Et par exemple, sur cette économie du don, parce que les Catherine Wahlby, ici c'est un livre qui était très intéressant de Catherine Wahlby sur tissu économique qui montrait justement comment, par exemple, le consentement éclairé, qui est le cœur de tout le dispositif biomédical depuis après Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, comment finalement le consentement éclairé dans la bioéconomie devient un instrument d'appropriation économique. Parce que c'est une économie du don, donc on cède. Hein? Donc, la personne va céder ses parties, ses tissus, mais le chercheur peut breveter. Donc, c'est vraiment une passation de propriété, d'un don vers une appropriation. Donc, c'est toute la logique du biocapital qui se met en place et qui est extrêmement complexe. Évidemment, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'à la fois, ça donne des logiques, des nouvelles formes d'exploitation et d'inégalité sociale extrêmement claires. Quand on regarde le cas de l'Inde, quand on regarde le cas des mères porteuses, quand on regarde nos revendications dans la rue sur les mères porteuses portées par une gauche, mais en même temps moralisées, c'est pas ça les enjeux. Les enjeux, c'est l'exploitation du corps humain puis une mise en place énorme d'un imaginaire qui est le fait d'un vivant qui est complètement plastique. En tout cas, bref, pour moi, c'est assez clair que c'est ça, la bio-citoyenneté aussi. Hein, c'est la revendication pour tout ça. On le voit, vous l'avez vu en acte en France, ça a donné des drôles de mouvements, mais en même temps, les questions sont quand même hallucinantes. Et donc, là, ce qui m'intéresse plus dans nos sociétés, c'est l'apparition, c'est l'apparition justement de ces cellules souches embryonnaires qui étalent hors de la bioéconomie, avec toutes sortes de problèmes, mais aussi des problèmes qui sont scientifiques. Hein. Les cellules souches embryonnaires sont plus fortement porteuses, par exemple, de possibilités de développer des cancers. Il y a toutes sortes de. On est à l'heure de la recherche. Il y a les IPS qui ont été développées, donc des cellules souches, des cellules qu'on modifie carrément génétiquement pour pouvoir les transformer en cellules totipotentes. Donc là, on est vraiment plutôt dans l'artificialisation. Il y a toute une économie imaginaire des cellules souches et chacune des types de cellules souches renvoie des imaginaires. Et là, ce qui m'intéresse, c'est dans nos sociétés sur la bio-citoyenneté, parce qu'on va oublier le reste du monde qu'on exploite. Je peux vous dire que l'économie en ce moment, si vous n'êtes pas au courant, l'économie des cellules souches, c'est en Inde. Pourquoi? Parce que on les utilise pour la recherche. On ne veut rien savoir du matériel génétique des femmes indiennes. Hein, donc, ce sont des mères porteuses, mais on ne veut pas leurs ovules. Elles ont zéro valeur. Pourquoi elles ont zéro valeur? Parce qu'elles sont racialisées. Hein, si vous allez voir sur les sites en Inde, par exemple, de la reproduction, vous allez voir des beaux bébés blancs portés par des femmes indiennes. Excusez, mais pour moi, ça me trouble, mais c'est ça la réalité. En ce moment, c'est des Ukrainiennes, hein, dont les ovules sont très convoitées. Pourquoi? Parce qu'elles sont, évidemment, dans la situation économique que vous connaissez, elles transitent par l'Inde, par Chypre. Et évidemment, bien, les plus chères, c'est les Californiennes, mais c'est un marché fermé pour les riches. Mais l'ensemble des classes moyennes vont transiter plutôt vers l'Espagne, où on a... Puis il y a le sperme aussi. Le sperme, c'est moins problématique parce que mais c'est quand même le matériel génétique. Mais en ce moment, c'est le Danemark qui se développe parce qu'ils ont mis tout un imaginaire puis tout un marché du sperme viking. Donc, il y a vraiment... Si vous allez voir tout ça sur Internet, puis les gens peuvent évidemment commander les gamètes puis les faire en Inde. Donc, il y a toute une... Mais ce qui m'intéresse à l'intérieur de nos sociétés... Bien, pas en France, parce qu'en France, ce que je vous parle, c'est interdit. Mais je vous dis que c'est pas pour longtemps. Donc, c'est les banques de cellules souches de sang de cordon. Parce qu'une fois qu'on a vu la limite, par exemple, des cellules souches embryonnaires, mais la limite aussi de la géopolitique, ça se développe plutôt en Inde puis en Chine, parce que c'est là où il y en a beaucoup. Mais une fois qu'on a vu s'y développer, bien, les cellules souches, on en a cherché. On en a trouvé, bien évidemment, dans le corps lui-même. C'est les cellules souches autologues qui sont les plus, en ce moment, sur lesquelles on travaille plus. Puis, curieusement, là où il y a le plus de cellules souches, c'est dans le corps féminin. Hein, les féministes maintenant matérialistes s'intéressent à Marx parce que c'est toute l'économie de la reproduction. C'est pas très surprenant que ce soit les ovules, le sang de cordon, le sang de fœtus avorté, tout ça qui a le plus de valeur. Pourquoi? Parce que ce sont les racines, hein, médecine régénérative. génération. Donc, la bioéconomie, c'est beaucoup une économie du corps féminin. Et donc, ici, ce qui est fascinant, c'est que se met en place une industrie du sang de cordon. Et le sang de cordon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le seul vraiment, depuis 1980, qui est utilisé pour, dans le cas du traitement contre le cancer, surtout chez les enfants, dans des banques allogènes. Allogènes, ça veut dire que c'est vraiment le même principe que les dons de sang. Hein, les personnes vont donner leur sang de cordon à la naissance et on l'utilise pour la leucémie. Et c'est vraiment important. C'est vraiment et c'est des cellules hématopoïétiques et c'est vraiment, vraiment important. Et donc, là, on assiste à quelque chose qui était public, qui est lié à un vrai traitement, donc le cancer, la leucémie chez les enfants, et on va privatiser, on est en train de privatiser cette ressource qui s'appelle le sang de cordon. Aux États-Unis, c'est énorme, ben ça l'a toujours été. Au Canada, on a une banque publique pour 10 banques privées. Et donc, c'est quoi les banques? Et en Grande-Bretagne, même Virgin, vous savez, Virgin, le divertissement, a sa biobanque de sang de cordon. Et c'est quoi? C'est l'idée, justement, que dans cette idée de régénération, c'est l'idée qu'on va congeler, donc une capitalisation, le sang de cordon qui est riche de cellules, juste pour vous dire, c'est pas du sang embryonnaire, hein, c'est déjà, qui est riche de cellules, et ce sang de cordon riche de cellules, évidemment, est porteur de tout un imaginaire. Donc, on va, les gens qui peuvent se permettre vont congeler ce sang de cordon qui coûte 1 500 au Canada avec toutes sortes de trucs et qui pose énormément de questions sur les systèmes de santé. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une étudiante qui fait en ce moment un travail d'analyse et derrière, c'est une redéfinition de la biosanté, c'est-à-dire que la mère, parce que c'est quand même la mère, là, ben, qui choisit de congeler son sang de cordon, c'est présenté comme une bioassurance, hein, et qui va congeler son sang de cordon, ben c'est la bonne mère. C'est celle qui assure presque, pas l'éternité, mais la santé parfaite à son enfant. Et donc, là, il y a tout. Et sachez qu'au niveau médical, ça n'a strictement pas d'application, puis que même, au contraire, normalement, si l'enfant, par exemple, développe une leucémie, c'est surtout pas ses cellules dont il va avoir besoin. Donc là, il y a vraiment, au niveau médical, il y a aucun scientifique, tous les scientifiques s'entendent pour dire que ça n'a pas de sens. On est vraiment dans une économie de la pure promesse. Et là aussi, bien évidemment, ça induit des inégalités sociales à la naissance. Ça pose toutes sortes de questions dans nos systèmes de santé. Nous, on a un système de santé purement public. Et les médecins, dernièrement, ont refusé justement de participer à cette privatisation. Pourquoi? Parce que même le personnel médical, lui, pendant qu'ils sont... Là, il y a tous des enjeux du corps des femmes qui est liés à l'accouchement, mais c'est vraiment... ça, c'est vraiment important. Puis en France, les gens commencent à aller congeler leurs cordons ailleurs, en Suisse, en Grande-Bretagne, parce qu'il y a un imaginaire très, très fort. Donc, un autre type d'imaginaire, toujours sur les femmes, mais là, c'est plus américain. Et là, c'est toujours ces cellules souches-là. Pas surprenant, il y en a dans le sang menstruel. Et donc, ils en ont découvert dans le sang menstruel. Puis là, on est... Vous savez que Google, dernièrement, ont permis de payer par les assurances la congélation des embryons pour leurs employés. Beau modèle de féminisme. Donc, pendant que vous allez être à notre... Vous n'avez pas besoin de vous reproduire, surtout pas, dérangez-nous pas. Congelez vos ovules, puis en plus, vous irez vers des mères porteuses. C'est Google qui a mis ça en place. C'est la politique, c'est l'année dernière. C'est donc, ça s'inscrit là-dedans. Hein, donc, là, les cellules souches ou cette économie de la cellule souche, ça correspond à L'Oréal, puisque moi, je l'appelle la bioéconomie L'Oréal, parce que je le vaux bien. Parce que là, on s'adresse aux femmes riches, parce qu'il y a aux femmes riches occidentales, professionnelles, qui ont célibataires ou pas, mais disons que dans l'imaginaire, c'est ça, et donc qui vont congeler leur sang menstruel avec cette idée que ce sang menstruel, éventuellement, pourra leur servir de cellule souche pour... Ça, c'est un génie de l'industrie. Pourquoi? Parce que le sang menstruel, là, je peux vous faire de l'anthropologie, il n'y a pas une société où la menstruation, c'est ce qui va... il y a plein de sociétés où les femmes, par exemple, sont c'est de l'ordre de l'abject, c'est de l'ordre du déchet, c'est de l'ordre de le sang, toute la sorcellerie, tout le corps des femmes depuis des millénaires et dans plusieurs cultures, le sang menstruel, c'est pas quelque chose de neutre. Ni le sang de cordon, d'ailleurs. Ni le sang de cordon. Et donc, c'est pas quelque chose de neutre. Mais là, on a réussi à en faire une valeur positive. Et donc, il y a une espèce de logique de capitalisation sur soi. Et donc, ça, c'est vraiment important. Juste pour le sang de cordon, j'ai oublié de vous dire, la plupart des cultures, plusieurs cultures, notamment africaines, le cordon et le placenta, Il y a eu, ben même en Europe, hein, il y a eu toutes sortes de... Parce que souvent, on le plantait, on plante un arbre, il y a toute une symbolique. En Afrique, c'est aussi de pouvoir protéger le... Il y a des liens... Et donc, en Afrique du Sud, moi, j'ai vu des plans britanniques qui écrivaient comment, justement, il faut briser cette vieille pratique barbare parce que maintenant, c'est une valeur. Et donc, essayer de s'emparer de ces cordons pour plus qu'ils soient dans des rituels barbares, mais dans le rituel de la bioéconomie. L'autre imaginaire, qui est le méga récit de l'Occident, c'est quand même l'idée d'autonomie d'un sujet qui existerait de... C'est non seulement le mot economicus, mais c'est le sujet libéral, hein, qu'on a fini par ontologiser, mais qui est une création historique, qui correspond absolument à rien au niveau sociologique, au niveau anthropologique. Hein, ça n'existe pas. On est au monde dans la dépendance et on meurt dans la dépendance. Et l'idée d'autonomie n'existe que par la plus grande dépendance au macro-système technique. Mais ici, ça s'inscrit dans, justement, ça c'est Gary S. Baker, vous savez c'est qui, prix Nobel d'économie, le seul qui milite ouvertement pour l'ouverture des marchés mondiaux sur le Rhin, quand même, il est courageux, c'est le seul qui milite, et donc Gary Baker qui va montrer, bon, dans Human Capital, hein, tout est, c'est le vocabulaire qu'on entend toujours, hein, les ressources humaines, capital humain, et le corps comme capital. Et donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'idée du sang de cordon, qu'on va congeler, le sang menstruel, tout ça, ça s'inscrit dans le mythe, hein, du corps comme capital individuel, hein, de cette santé qu'il faut, sur laquelle on peut capitaliser et qui va être une ressource qui va nous permettre de se développer. Ce qui m'intéresse justement, c'est que finalement, quand on s'intéresse aux imaginaires, on voit qu'ils sont multiples, croisés, qu'ils vont chercher dans toutes sortes de... Mais il y a quand même le métadiscours du sujet, hein, de l'économie, du sujet libéral qui... prend toutes sortes de formes imaginaires. Et ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est les travaux, ça c'est 2012, BioObject, c'est-à-dire que maintenant, on s'intéresse justement, et les sciences sociales ont délaissé depuis la cybernétique, parce qu'on a décidé que tout était information, que tout était langage, et que, ben la matérialité. Et donc, ces objets-là, ce sont des matériaux. Et on a beau regarder un embryon, on peut l'interpréter de plein de façons, on ne sait strictement pas exactement, biologiquement, matériellement, c'est un objet... Hein, c'est artificiel, mais biologique. Et on produit, hein, le plus connu, c'est les OGM, mais sur le corps humain, énormément. Et donc, à mon sens, non seulement on est... Là, c'est ce qui dépasse l'imaginaire. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que là, on a créé des choses qu'on n'est même pas capable d'imaginer. Je vais conclure, puis ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse en ce moment. C'est-à-dire que là, c'est la fusion, mais c'est pas tout à fait surprenant, des technologies d'information. Donc, c'est l'impression 3D qui se développe. L'impression 3D, c'est pas rien. C'est la matérialisation de l'imaginaire de l'univers digital. On a digitalisé le monde, et là, on le rematérialise, mais d'une matérialité qui a plus rien à voir au monde matériel, à la physique matérielle. Et là, il y a encore non seulement un impensé, mais quelque chose qui est de l'ordre d'une réalité concrète, d'un imaginaire en acte dont on n'a aucune commune mesure qu'est-ce que ça signifie réellement. Et l'impression 3D, c'est vraiment toute une révolution industrielle en ce moment. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la bio-impression, parce que là, on part de bio-objets. Donc, les cellules in vitro, les lignées cellulaires, surtout des cellules souches, qui sont autologues, celles-là, donc qui proviennent des corps des patients eux-mêmes, et qui, par le biais de la bio-impression, hein, on imprime des tissus humains. En ce moment, on a l'idée d'imprimer des organes. Le premier, ce sera le rein. Et donc là, on est vraiment dans une matérialité dont on ne comprend même pas, qui va produire une matérialité dont on connaît ni les effets, ni les... Ça dépasse l'imaginaire, parce qu'en plus, ça entre dans les corps, ça sort dans les corps. Donc, pour conclure sur le fait que, par-delà la bioéconomie et les imaginaires en acte, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce qui échappe à l'imaginaire ou ce qui est l'impensé de tout ça et qui peuple déjà partout dans le monde, et ce sont des pratiques qui sont déjà extrêmement présentes. Je vous remercie.